Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.
À la une des quatre colonnes cette semaine, les plafonds du PTZ, l'élargissement du BRS et le statut du bailleur privé, les premières avancées à l'Assemblée nationale. Alors que les discussions se sont interrompues ce lundi soir à l'Assemblée nationale sur le volet recettes du projet de loi de finances pour laisser place à celle du budget de la sécurité sociale, quelles sont aujourd'hui les premières bonnes nouvelles pour relancer l'accession à la propriété et apporter un peu d'oxygène au secteur du logement en souffrance depuis plus de deux ans? Tout d'abord, deux amendements portés par Lionel Causse, Ensemble pour la République et Michel Castellani, LIOT, qui ont été adoptés ce lundi 27 octobre, malgré l'avis défavorable du gouvernement. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, estimait en fait qu'il restait de la marge avant d'atteindre le montant plafond du PTZ. Les deux amendements, EPR et LIOT, consistent en fait à augmenter les montants plafonds et planchers d'opérations du PTZ, réservés aux primo-accédants et principalement pour un achat dans le neuf. Des montants qui étaient inchangés depuis 2014, a rappelé le député des Landes, Lionel Causse, dans l'hémicycle. Désormais, un ménage pourra bénéficier d'un montant minimum de 99 000 euros contre 79 000 euros aujourd'hui et d'un plafond maximal porté à 195 000 euros contre 156 000 euros actuellement, ce qu'a proposé Michel Castellani, député de Haute-Corse. Autre avancée à l'Assemblée nationale sur le logement et pas des moindres, le bail réel solidaire, le BRS, qui séduit aujourd'hui de plus en plus d'acquéreurs dont les revenus ne dépassent pas certains plafonds. Malgré l'avis défavorable du rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, Philippe Juvin, les députés de courants politiques divers comme Michael Causse, démocrate, Stéphane Peu, gauche démocrate républicaine, ou Inaki Echani, socialiste, ont poussé pour que les acquéreurs successifs d'un logement en BRS puissent l'acheter en bénéficiant du PTZ. Écoutons Daniel Labaronne, député Ensemble pour la République d'Indre-et-Loire, qui a porté aux côtés de son président de groupe, Gabriel Attal, l'amendement visant à accélérer le développement du BRS.
Alors, moi je trouve que les débats en commission comme en hémicycle sont des débats de qualité. On peut échanger nos idées, projet contre projet. Et je trouve que c'est vraiment un débat intéressant, respectueux, qui fait honneur au Parlement.
Après quelques jours, le démarrage en séance publique, que retenez-vous sur le logement des avancées de vos travaux ?
Alors, il y a eu déjà des votes qui concernent le logement, notamment s'agissant du PTZ. Les plafonds du PTZ ont été remontés, puisque à la faveur d'un amendement, en définitive, le dispositif permet à un ménage qui veut faire un PTZ, eh bien, de pouvoir le faire pour un montant maximal de 99 000 euros contre 79 000 euros aujourd'hui. C'est un plafond intéressant, c'est le montant minimum. Hein. Quand je parle de plafond, ça veut dire aussi que le PTZ pourra aller jusqu'à 195 000 euros. C'est vraiment une avancée, puisque auparavant, le plafond du PTZ était de 156 000 euros. Il y a également des dispositions qui ont été prises en faveur du bail solidaire, notamment le fait que les acquéreurs successifs d'un tel logement, d'un bail réel solidaire, eh bien pourront mobiliser un prêt à taux zéro. Donc c'est encore une avancée.
Daniel Labaronne, qu'en est-il du statut du bailleur privé auquel le nouveau ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, vient de déposer un amendement gouvernemental au PLF pour redynamiser le parc locatif privé ?
Bah écoutez, le gouvernement a déposé un amendement qui vise à proposer, s'agissant de la construction neuve, un amortissement à hauteur de 2%. Bon, c'est une proposition qui va dans le sens de ce qui était demandé par les opérateurs. Mais un certain nombre de députés souhaiteraient que ce dispositif ne soit pas réservé uniquement à la construction neuve, mais à l'ensemble du parc de logements en France, y compris pour permettre aussi des rénovations énergétiques et mettre sur le marché davantage de logements Puisqu'on le sait, maintenant, il faut, pour certains logements, faire de la rénovation pour pouvoir les louer. Il est vrai aussi que nous avons beaucoup de logements vacants et que ces logements sont vacants parce que les propriétaires hésitent, en définitive, à faire les réparations nécessaires, les rénovations nécessaires pour ensuite pouvoir les louer. Donc, un beau débat aussi sur la politique du logement à travers cette discussion du projet de loi de finances 2026.
Comment concilier plus de logements et en même temps concilier l'équation budgétaire ?
C'est vrai que c'est compliqué parce que tout le monde connaît la situation budgétaire de la France. Le budget de l'État et le budget de la protection sociale sont en déficit. Et nous avons une dette publique qui est très importante. Donc, notre souci doit être de baisser la dépense publique et de limiter l'augmentation des impôts, parce que déjà, nous sommes en France l'un des pays où les impôts sont les plus élevés, où les cotisations sociales sont les plus élevées. Par conséquent, notre effort doit porter sur la réduction de la dépense publique et la limitation des taxes et des impôts et des cotisations. Bon, alors, c'est compliqué parce que soutenir le logement, forcément, ça coûte de l'argent à l'État. Ça en rapporte. Ça en rapporte parce que quand on construit un logement, il y a de la TVA, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent, il y a de l'emploi, c'est dans les territoires. Donc j'entends tout ça.
Vous entendez les inquiétudes.
Bien sûr. Nous sommes dans une situation budgétaire qui est extrêmement compliquée. Il faut aussi que tout le monde l'entende. Parce que si nos taux d'intérêt augmentent de manière très importante parce que nous n'arrivons pas à financer notre dette, derrière, vous n'aurez plus personne pour emprunter, pour acheter un logement. Donc tout est lié, en définitive. Et il faut en avoir conscience. Donc, si on n'était pas dans cette situation budgétaire compliquée, moi je serais le premier à soutenir fiscalement une politique du logement ambitieuse, bien sûr. Mais nous ne sommes pas dans cette situation. Voilà, et je le déplore. Et c'est pas faute d'avoir dit depuis 5-6 ans qu'il faut réduire la dépense publique. Bon, voilà, on l'a fait, mais pas suffisamment. Donc voilà, aujourd'hui, beaucoup de déficits, beaucoup de dettes. Et tout ça, ça se paie en taux d'intérêt élevé. Bon. Le problème, c'est quand on veut acheter un appartement ou une maison, on fait un crédit. Et si les taux d'intérêt sont élevés, on n'achète pas. Ou on rénove pas, ou on ne construit pas. Donc, il faut qu'on soit sérieux sur le plan budgétaire.
Terminé. Sentez-vous l'hémicycle divisé sur le sujet du logement ?
Oui et non. Tout le monde est favorable à une politique de logement ambitieuse. Il y en a qui rappellent ce que je viens de dire, à savoir que nous sommes dans une situation budgétaire difficile et que l'heure n'est pas à la dépense à tout va. Puis d'autres, qui se fichent pas mal de la question du déficit, de la dette, et qui sont prêts à avoir une politique budgétaire un peu irresponsable. Voilà. Donc, on est tous d'accord pour soutenir le logement. Sauf que certains considèrent que dans la situation budgétaire, on ne peut pas être très généreux. Puis d'autres qui disent, allons-y, soyons généreux.
Quel message adressez-vous au groupe socialiste en ce moment plutôt pivot
Un message de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ont été au gouvernement, ils savent ce que c'est que des comptes publics, il faut rechercher le compromis. Moi, j'appartiens au bloc central. Nous avons accepté déjà beaucoup de choses. L'augmentation de l'impôt sur les sociétés, l'augmentation du taux sur les dividendes, la contribution sur les plus hauts revenus. Autant de choses pour lesquelles, moi, j'ai voté, mais vraiment à contre-cœur. Donc, j'ai fait des compromis, moi, personnellement. Mais pas que moi, mon groupe et le bloc central. On attend qu'en face, des compromis soient faits aussi. Ça ne peut pas être toujours le même qui accepte des compromis. Moi, je suis d'accord pour discuter de la répartition des richesses. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on casse l'outil de création de richesses. Voilà. Je suis d'accord pour parler du partage du lait, mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on puisse tuer la vache.
Une fois de plus, on a retenu à l'Assemblée nationale que les députés spécialistes de la question du logement se comptaient sur le bout des doigts dans l'hémicycle. Mais plusieurs d'entre eux, comme Lionel Causse et Daniel Labaronne, Ensemble pour la République, Michel Castellani, Liotte, François Jolivet, Horizon, Jean-Paul Mattei, Modem, Inaki Echaniz, Parti Socialiste, Stéphane Peu, Gauche démocrate et républicaine, ont fait preuve de consensus dans leurs échanges pour parvenir dans le PLF à sortir de la crise du secteur. Ils ont même voté vendredi soir en faveur d'une transformation de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, en impôt sur la fortune improductive, qui élargit l'assiette de l'impôt tout en modifiant le barème et en créant un abonnement sur la résidence principale ou unique. Mais ces avancées ne sont pas acquises. Désormais, le Sénat peut les conforter ou les modifier. Une probable commission mixte paritaire, la fameuse CMP, pourrait, ne l'oublions pas, porter préjudice à la mesure. Et tout le monde a d'ores et déjà pris conscience qu'on n'est pas à l'abri d'un budget décidé par ordonnance ou encore par une loi spéciale.
Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.